Une semaine après la libération d'Olivier Van de Castel, ça ne vous aura pas échappé, eh bien, trois nouveaux otages ont été libérés des geôles iraniennes sous l'impulsion de la Belgique et de son opération Blackstone. Véritable coup diplomatique, élément de réponse avec Jonathan Piron, il est historien, politologue, spécialiste des relations internationales et de l'Iran. On l'écoute au micro de Blaise Van der Linden.
Jonathan Piron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, politologue, spécialiste des relations internationales et de l'Iran. Grand moment en Belgique, une semaine après la libération d'Olivier Van de Castel, nous avons appris que l'opération Blackstone avait un deuxième volet qui a amené la libération d'un Danois et de deux Irano-Autrichiens. Deuxième volet qu'Alexander De Croo avait caché à Olivier Van de Castel. Alors pour commencer, Adjalabib a dit qu'elle pensait que c'était la première fois qu'un pays parvenait à faire libérer des citoyens n'étant pas ressortissant. C'est le cas ?
En effet, donc c'est ça qui est une grande victoire finalement pour la diplomatie belge, c'est de voir que il y a eu une séquence en deux moments et que la libération des trois derniers otages qui a eu lieu il y a quelques jours en fait fait partie de la même séquence de libération pour Olivier Van de Castel. Donc c'est un moment en fait justement dans lequel la Belgique se positionne. C'est aussi important de noter que ici il n'y a pas seulement que les trois personnes qui ne sont pas belges, ce sont aussi trois personnes qui ont la double nationalité. Et par rapport à ça, en général, l'Iran est toujours très difficile dans la libération justement de ses otages parce que l'Iran ne reconnaît pas les doubles nationalités. Vous n'êtes pas par exemple suédois-iranien ou belgo-iranien, vous êtes iranien. Et donc ici, l'Iran a accepté finalement, par l'intercession aussi d'Oman et par la diplomatie belge, de relâcher ceux qu'il considérait finalement comme deux Iraniens, donc les deux personnes autrichiennes détenues depuis 2016 et 2019.
Justement, pour revenir sur cette histoire de nationalité, c'est une première que l'Iran libère justement des gens ayant la double nationalité et étant iranien.
Ça n'arrive pas régulièrement, en effet. Donc, il faut maintenant revoir un peu plus loin dans le temps s'il y a déjà eu des cas par le passé. Mais en tout cas, dans les décennies qui viennent de s'écouler, c'est absolument pas le cas. Donc c'est un moment intéressant et c'est ça qui nous montre justement en fait que la Belgique a été très impliquée dans les demandes de libération et que c'était justement la volonté de ne pas relâcher Assadi sans contrepartie, sans également avoir des contacts avec les autres chancelleries européennes, puisqu'on voit visiblement dans ce que Alexander De Croo raconte qu'il y a eu des consultations avec les autres capitales pour voir justement comment on pouvait faire libérer d'autres otages. Maintenant, il faut aussi noter qu'il y a toujours des otages qui sont détenus en Iran. Il y a encore beaucoup de double nationalité. Et puis, il y a aussi encore des otages occidentaux. Je pense, par exemple, aux quatre Français qui sont toujours aujourd'hui détenus en Iran.
On peut considérer cela comme une grande réussite pour la diplomatie belge ?
C'est une grande réussite, en effet, puisque non seulement la diplomatie belge a réussi à faire revenir Olivier Van de Castel sain et sauf, et aussi parce que, en effet, elle a réussi à montrer qu'elle était impliquée dans le dossier et qu'elle parvenait également à négocier pour d'autres personnes qui ne sont pas liées à la Belgique et qui ne sont pas non plus liées finalement au dossier Assadi et Van de Castel. Donc ça démontre justement cette volonté d'implication et aussi de coordination européenne qui, dans un sens finalement, mais comme d'ailleurs la plupart des représentants du gouvernement l'ont affirmé, fait honneur à la Belgique.
Dans ses déclarations, Alexander De Croo n'est pas forcément rentré dans les détails, c'est par sûreté.
Il faut bien comprendre que dans ce genre de négociations, il y a toute une série d'éléments qui doivent être maintenus discrets parce qu'ils peuvent justement, en étant révélés, mettre en danger d'autres cycles dont les libérations sont révélées. Les trois autres otages ont été libérés une semaine après Olivier Van de Castel, visiblement parce que l'Iran ne voulait pas perdre la face auprès de sa population, auprès du régime, dans la structure, la manière dont il fonctionne. Et donc l'Iran voulait bien montrer et mettre en évidence que c'était un contre un, alors qu'il savait très bien qu'il y en avait d'autres qui étaient derrière. Donc on est justement dans un séquençage qui s'est réalisé de cette manière-là, et qui nécessitait aussi cette discrétion pour être sûr justement qu'à un moment ou un autre, il n'y ait pas une information qui fuite sur laquelle alors les durs du régime pouvaient s'appuyer, et ensuite annuler en fait toute possibilité d'échange. On a vu aussi l'interception d'Oman. Et donc Oman est un partenaire assez intéressant également, qui est déjà très présent justement dans l'ensemble des négociations, aussi bien avec l'Iran qu'avec d'autres pays de la région. Et donc la nécessité justement de garder une certaine confidentialité, une discrétion est importante pour les prochains échanges qui pourraient arriver. Parce que c'est justement cette discrétion qui permet la confiance et qui permet de faire aboutir les dossiers.
Quatre otages libérés en une semaine, c'est un signe d'ouverture de la part de l'Iran ?
C'est une question en effet que tout le monde se pose, parce qu'il ne faut pas non plus oublier que le 12 mai, il y a eu d'autres otages qui ont été libérés. Et donc, on est dans quelle séquence en fait ? Il faut voir ça de manière plus générale. Il y a eu des discours qui ont été prononcés par Khamenei la semaine dernière, qui appelait un peu plus de flexibilité dans la politique étrangère. Il y a également eu des signes qui ont été envoyés auprès de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, en réponse à des questions qui étaient posées sur le programme nucléaire. On a vu également que l'administration américaine ne fermait pas la porte à une reprise de négociations sur le nucléaire avec l'Iran. Donc on voit en fait qu'il y a un mouvement, il se passe quelque chose. Est-ce que maintenant ça veut dire que l'Iran est prêt à revenir à la table des négociations? Peut-être, peut-être pas. Donc il va falloir voir en fait dans les jours et les semaines à venir comment les choses vont continuer à évoluer. Maintenant, il faut bien se rendre compte que même si on prend par exemple la question du nucléaire, même s'il y a un retour à la table des négociations, ça va pas nécessairement dire qu'il va y avoir un accord. Les étapes sont encore très longues. On sait aussi que l'Iran pose beaucoup de problèmes. Par exemple, il est impliqué dans le conflit avec l'Ukraine en étant présent près de la Russie. On a vu aussi la répression des manifestations à la suite de la mort de Mahsa Jinnah Amini. Et donc, le manque de confiance est assez peu présent entre les différents partenaires qui doivent être amenés à négocier. On voit que les choses bougent. Maintenant, l'Iran est toujours un partenaire ou un acteur, en tout cas, qui tergiverse, en fait, est un peu plus flou dans ses politiques. Et donc, il faut être prudent sur la manière dont les choses vont s'ouvrir, se décanter ou se dégager pour la suite.
Vous parliez du nucléaire, vous parliez également de confiance. On peut penser alors que ces libérations vont permettre à l'Iran de légèrement redorer son image, surtout au moment où on apprend que les négociations sur le nucléaire reprennent tout doucement?
Les négociations sur le nucléaire n'ont pas encore repris. Il y a des ouvertures qui se font, il y a des réponses qui ont été accordées. Maintenant, on sait aussi que cette semaine, il va y avoir une rencontre du Conseil des gouverneurs de l'AIEA, et qu'il y avait justement le risque que ce conseil ne donne un avis négatif par rapport à l'Iran et n'entraîne peut-être aussi le retour à de nouvelles sanctions. Donc peut-être l'Iran souhaite simplement temporiser, se démontrer qu'il est de bonne confiance, sans nécessairement changer fondamentalement son comportement.
Ils en sortent vainqueurs, au final, de ces libérations?
Le régime, en tout cas, essaie de montrer à l'intérieur qu'il est parvenu à obtenir la libération de son diplomate, qui était d'ailleurs, suivant les déclarations qui ont été rendues à Téhéran, détenu de manière illégale, c'était un innocent, qui était dans la main des Occidentaux. Donc, c'est une volonté, encore une fois, de rhétorique pour montrer qu'il est fort dans ses frontières. Est-ce qu'il en sort vainqueur? Maintenant, c'est difficile à dire. Sur le court terme, peut-être, mais sur le moyen terme, on est quand même dans une situation où, du point de vue des chancelleries occidentales, l'Iran est vu de plus en plus comme un état paria, avec lequel la confiance n'est pas installée, avec lequel il faut quand même négocier pour éviter justement que, un jour, peut-être, il se dote de la bombe nucléaire, ce qui aurait aussi des effets dévastateurs dans la région. Et donc, en fait, c'est une situation qui n'est pas binaire, ce sont différentes nuances de gris, avec des partenaires qui ont souvent des humeurs changeantes et aussi avec un pouvoir de décision qui reste très opaque. Donc, c'est ça qui rend justement la difficulté d'analyse, en fait, de la prise de décision en Iran, c'est que c'est un jeu avec plusieurs équations qui entrent en considération, il faut donc justement bien décortiquer et ne pas tirer des conclusions trop hâtives.
Vous avez parlé de Assadollah Assadi, ce terroriste qui a été donc rendu à l'Iran. La Belgique était prête à tout pour faire libérer Olivier Van de Castel et ses trois autres otages?
Tout dépend ce qu'on appelle ou ce qu'on veut dire par être prête à tout. On savait en fait depuis le début quelles étaient les demandes faites par l'Iran. Donc on savait que l'Iran voulait la libération d'Assadi. Ici, en fait, on a vu surtout que la Belgique a maintenu quand même aussi un rapport de force avec l'Iran en exigeant qu'il n'y ait pas seulement qu'Olivier Van de Castel qui soit libéré, qu'il y ait d'autres personnes qui soient également libérées. Et donc c'est ça aussi justement qui fait peut-être la différence, c'est qu'on a été dans une demande qui a été maintenue, qui a été constante, comme l'affirme Alexandre de Croo, et qui finalement a abouti à un résultat positif.
Jonathan Piron, je rappelle que vous êtes historien, politologue, spécialiste des relations internationales et de l'Iran. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.
Merci à vous.